I use a word, it means just what I choose it to mean.
Oui, mot de passe, j'aime bien l'expression.
Les mots ont un sens.
Les mots ont un sens.
Les mots ont un sens.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
The yes needs a no to win. Again, the no.
Et ça ne signifie rien.
Il y a une instrumentalisation de tout ce que je dis.
Avec moi, vous parlez de choses sérieuses.
Mot de passe, un jeudi sur deux, 20h, Radio Campus Paris, sur le 93.9.
Je sais bien qu'il est de bon ton aujourd'hui de disserter à l'infini sur la signification même du concept de souveraineté. Toutes ces arguties, en réalité, n'ont qu'un but. Vider de sa signification ce mot gênant pour qu'il n'en soit plus question dans le débat. À force de renoncement, aussi ténu que soit chacun d'eux, on va bel et bien finir par vider la souveraineté de son contenu. Car il s'agit là d'une notion globale, indivisible comme un nombre premier. On est souverain ou on ne l'est pas. La souveraineté, cela ne se divise pas, cela ne se partage pas non plus.
Être indépendant, c'est partager des souverainetés.
Les digues derrière lesquelles l'Europe pouvait s'épanouir ont disparu. La voici aujourd'hui plus fragile, exposée aux bourrasques de la mondialisation telle qu'elle va, et même, ce qui sans doute est pire, à des idées qui se présentent comme des solutions préférables. Ces idées en nom nationalisme, identitarisme, protectionnisme, souverainisme de repli.
Et le souverainisme, autre mot qui me paraît produire des confusions extraordinaires aussi. Hein.
Que je lis dans un journal que je suis en tentation souverainiste.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mot de passe, l'émission qui passe les mots en revue. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est le souverainisme qui retiendra notre attention. Un mot compliqué qu'on entend à gauche, à droite et qui est contesté des deux côtés. Car on l'a entendu, passe encore pour la souveraineté, mais dès qu'il est question de souverainisme, rien ne va plus. Pourquoi tant de haine? On en parle avec nos deux invités. L'un, Jacques Sapir, est économiste et directeur d'études à l'EHESS. Bonjour.
Bonjour.
L'autre, Georges Kousmanovic, fut le conseiller de Jean-Luc Mélenchon avant de quitter la France Insoumise en 2018. Depuis, il a fondé son propre mouvement, République Souveraine. Bonjour.
Bonjour.
Nos deux invités, donc, sont ce qu'on appelle des souverainistes. Et ma première question à l'un et à l'autre sera très simple. Quel genre de souverainiste êtes-vous? Quelle est votre définition du souverainisme, Georges Kousmanovic?
Mais écoutez, nous nous définissons comme souverainistes sociaux. Et je dois dire que j'acquiesce à 100% aux propos de Philippe Séguin, que vous avez mis en introduction à cette discussion.
Alors peut-être pour recontextualiser pour ceux qui ne sauraient pas, c'était donc le discours du 5 mai 92 pour convaincre les parlementaires de ne pas voter la ratification du traité de Maastricht.
Voilà, exactement. Où nous avons commencé à perdre notre souveraineté. C'est-à-dire celle qui a été acquise, celle de l'État souverain, commence à se perdre réellement en 1992. Enfin, certains considéreront que c'est l'acte unique des 86, mais bon, c'était en gestation, disons. Alors moi, déjà, je voudrais dire que je m'oppose radicalement à la forfaiture intellectuelle qui consiste à faire du souverainisme un identitarisme. C'est ce qui a été entendu dans la citation que j'ai très très bien choisie d'Emmanuel Macron, qui... une énième fois, essaye de masquer les notions de souveraineté derrière un identitarisme ou un nationalisme, ce qu'il n'est pas du tout. Et c'est la confusion que fait par exemple un certain Éric Zemmour, qui est selon moi un souverainiste en carton, et qui confond totalement avec identitarisme. Lui, ce qu'il défend, c'est l'identitarisme. Et donc notre souveraineté, ce que nous défendons, quand on est souverainiste, on défend la souveraineté, c'est tout simplement ce qui est dans la Déclaration des droits de l'homme, qui, je crois, n'a pas été abolie encore, et dans la Constitution française. C'est l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. » Et il est parfaitement complété dans le titre premier de la Constitution, titre premier de la souveraineté, ce qui semble avoir été largement oublié, où il est dit que la souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Ça s'appelle tout simplement la démocratie. Or, celle-ci est de plus en plus spoliée, on pourra en parler avec les traités de libre-échange, avec la construction de cette Union européenne très particulière-là, qui est une forme de localisée de mondialisation. Mais voilà, et donc nous sommes pour la défense de la souveraineté nationale, de la souveraineté populaire, qui s'articule l'une avec l'autre, comme ça vient d'être dit. Et j'ajouterais que la souveraineté, le mot même, est éminemment français. Le mot souveraineté, le concept, tout ce qu'on en défend derrière quand on se dit souverainiste, nous vient de Jean Bodin, qui a été celui qui l'a pensé pour la monarchie absolue, dont la légitimité venait de Dieu. Et puis après, ça a été Jean-Jacques Rousseau avec la souveraineté populaire, c'est le contrat social. Puis la BICIS avec la souveraineté nationale. Bref, la souveraineté, la défense de la souveraineté, le souverainisme sont éminemment français au sens très positif de la chose.
Jacques Sapir, est-ce que vous retrouvez dans la définition du souverainisme que donne Georges Kousmanic ?
Oui, globalement, oui. Je dois dire que, d'abord, je voudrais écarter un faux débat. Très souvent, on dit « Ah oui, mais vous êtes souverainiste, mais donc vous vous classez plutôt à la droite ou à l'extrême droite. » Non. La souveraineté, comme l'a dit Georges, c'est profondément l'idée de la démocratie qui est derrière. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans souveraineté. Il peut y avoir des systèmes qui sont souverains et qui ne sont pas démocratiques. Ça, on en connaît un certain nombre. Mais l'inverse ne peut pas être vrai. On ne peut pas être dans une démocratie sans souveraineté. Et donc, évidemment, si on tire toutes les conséquences de ce qu'a dit Georges, moi, je penserais plutôt à travers l'acte unique. Mais c'est vrai que le traité de Maastricht a renforcé l'acte unique. On peut penser que nous avons perdu des éléments importants de la démocratie. Alors après, ce qui est important, c'est que être souverainiste, ça veut dire se battre pour la souveraineté. Mais se battre pour la souveraineté, ça peut être différents types de souveraineté. Parce que si la souveraineté est un principe qui est effectivement est indivisible, les usages qui sont faits historiquement de la souveraineté peuvent être assez différents. Et il y a effectivement un usage populaire, donc on peut parler de souveraineté populaire, comme il y a un usage monarchique de la souveraineté, qui a beaucoup existé. Il peut y avoir des références à la religion, comme on peut détacher la souveraineté de toute religion. Et je signale...
Oui, vous parlez de Jean Bodin, qui est également un penseur de la laïcité, vous liez...
Tout à fait, tout à fait, parce que, effectivement, Jean Bodin pense la souveraineté du roi, et pourquoi il veut l'affirmer ? C'est que le roi est contesté dans sa souveraineté. Alors, il est contesté par des puissances étrangères, bon, ça c'est classique, mais il est contesté en interne. Il y a toute une série de grands nobles qui, d'une certaine manière, cherche à accaparer des morceaux de la souveraineté. Et c'est pour cela qu'il réaffirme l'idée de l'unicité et de la non-divisibilité de la souveraineté. Après, il est intéressant de voir comment il se positionne par rapport aux religions. Il a commencé par être catholique, évidemment, il est resté. Et ce que l'on jugerait aujourd'hui, pour nos critères, hein, évidemment, un catholique assez extrémiste. Et puis, il évolue dans le temps, tout simplement parce qu'il se rend compte qu'on ne pourra pas réunifier la religion chrétienne.
Oui, parce qu'il faut préciser que toute cette réflexion s'inscrit dans le cadre des guerres de religion.
C'est les guerres de religion qui sont le contexte général de cette réflexion. Et donc, il va chercher à dégager la souveraineté de tout rapport à Dieu. Et il le dit d'ailleurs dans son traité « Les six livres de la République ». Pour lui, la souveraineté prend sa racine dans l'existence de conflits internes à l'État. Et la seule manière de réguler ces conflits, c'est la souveraineté. Donc on voit, il y a bien sûr toujours des réminiscences ou des réflexions religieuses chez Jean Bodin. On ne voit pas d'ailleurs comment il pourrait en être autant. Les intellectuels, les hommes et les femmes, sous les guerres de religion, avaient une compréhension assez différente de celle que nous pouvons avoir aujourd'hui de la religion, d'une certaine manière, ça va vous paraître un petit peu, mais ils y croyaient réellement. Non pas que aujourd'hui les gens qui sont religieux ne croient pas réellement, mais en tous les cas, ils ne feront pas de la religion, sauf là encore des extrémistes, un principe explicateur de la totalité du monde. Bon. Par contre, au XVIe siècle, l'époque où vit Jean Bodin, oui, et grosso modo, 99% des gens sont dans ce cadre. Bien. Mais il comprend aussi que le principe religieux peut prendre différentes formes et que donc il ne peut pas exiger des gens qu'ils se rattachent à une religion. Il y a d'ailleurs, dans les six livres de la République, un point qui est très important. Il dit « Il est bon que le roi soit catholique, il n'est pas nécessaire qu'il le soit. » Autrement dit, dans la première partie de la phrase, il exprime son point de vue de catholique. Dans la deuxième partie, il dit « Oui, mais en réalité, il est nullement nécessaire que le roi de France soit catholique. Il est d'abord le roi des Français et les Français peuvent avoir des religions multiples. » Et c'est important parce que là, on retrouve quelque chose qu'a dit Georges. La souveraineté et donc le souverainisme sont, je dirais, absolument distincts et dans une certaine mesure même orthogonaux à l'idée d'identité. Parce qu'on comprend bien, il peut y avoir des identités religieuses, il y a des identités sociales, il y a des identités régionales qui existent et qui sont par ailleurs tout à fait légitimes, mais ces identités n'ont rien à voir avec la souveraineté. Et donc, je dis, si moi je me dis souverainiste, c'est justement en référence à cette notion de la souveraineté globale. Même si, par ailleurs, comme Georges, je pense pour un usage de la souveraineté qui soit un usage, je dirais, populaire, démocratique, et qui soit, d'une certaine manière, plus en relation avec les fondements même de la souveraineté. Un dernier mot. On parle toujours de Jean Bodin. C'est tout à fait normal, c'est un des grands penseurs historiques. Mais il n'est pas le premier à avoir pensé à la souveraineté. Qu'est-ce que c'est la souveraineté ? C'est la capacité de faire des lois sans que l'étranger fasse pression sur vous pour la manière dont les lois sont faites. Bien, ça nous renvoie à Rome, voire à la Grèce. Et de ce point de vue-là, il y a un point important. Dans Rome, si vous regardez dans la Rome républicaine, il y a un principe. Qui a réellement le pouvoir ou qui est le fondement du pouvoir ? Est-ce que c'est le Sénat ? C'est le peuple, ou plus exactement, l'assemblée du peuple, ce que l'on appelle, alors je suis désolé pour les gens qui n'ont pas fait de latin, c'est les comices tributes, la réunion des différentes tribus qui formaient le peuple romain. Et comment on le montre que c'est eux qui avaient fondamentalement le pouvoir ? Ils étaient capables de changer l'ordre du jour d'une réunion. Qui a la possibilité de faire des lois ? Et qui peut décider ? Quelle priorité on donne à quel problème, autrement dit, qui peut décider de l'ordre du jour dans une réunion, est réellement souverain.
Vous dites quand même que l'identité, la question de l'identité ne peut pas être évacuée, puisque à partir du moment où on parle de souveraineté, il faut un souverain, il faut définir ce souverain c'est le peuple, et à partir de là se pose la question de la définition de ce peuple. Et il va bien falloir qu'il y ait une identité. Simplement, cette identité, il va s'agir de savoir si elle sera ethnique, religieuse, ou bien, et c'est votre point de vue, politique. Est-ce que c'est en ce sens-là que vous vous distinguez, par exemple, du souverainisme d'Éric Zemmour dont vous parliez, que vous fustigiez à l'instant ?
Très exactement, et encore une fois, je pense qu'il n'est pas, réellement souverainiste, mais bon, c'est notre débat. On parlait de nation, et la nation, c'est quand même un territoire, des frontières, un peuple qui s'y trouve, avec une langue, une histoire, une culture particulière, mais surtout un accord politique pour vivre ensemble politiquement. Le grand moment pour de naissance de la nation française moderne avec la République, ça va être le 20 septembre 1792, symboliquement. C'est la bataille de Valmy. La nation est en danger. Brunswick marche sur Paris avec des troupes professionnelles. Et ce qui ne sont pas encore les conscrits de l'an 2, on fait souvent l'erreur, ce sont les volontaires. Se joignent ce qui reste des armées royales et vont défaire le Brunswick et les armées prussiennes à Valmy au cri de vive la nation. Ça va permettre de faire une avancée extraordinaire dans les deux jours qui suivent le 21 et 22 septembre 1792 avec l'abrogation de la monarchie. Donc c'est la fin de cette constitution où le roi avait encore un droit de veto et c'est la proclamation de la République. Et de ces jours-là, s'ensuit une lente discussion dans le cadre de la République sous les auspices de la souveraineté populaire, de l'acquisition de nouveaux droits, de plus de justice sociale. Et c'est pour ça que nous, on se qualifie de souverainistes sociaux. Car, comme le disait Jacques, la souveraineté dépend de ce qu'on en fait. La Russie, par exemple, ou la Chine ne sont pas des démocraties, sont des États extrêmement souverains. Ils n'ont que la souveraineté nationale, ils ont très peu, voire pas du tout, comme en Chine, la souveraineté populaire, en tout cas nous, comme on l'entend depuis la Révolution française. Et donc, ce qui compte, c'est la manière dont le peuple, par voie référendaire ou l'entremise de ses représentants, s'organise dans la cité et organise la vie dans la cité. Donc ça va être cet autre gros mot que je ne supporte pas à Emmanuel Macron, parce qu'il ne supporte pas le protectionnisme non plus, c'est la régulation. La règle, la loi. Donc les lois qui font que, eh bien, on réduit le temps de travail à 8 heures, que les enfants ne travaillent pas, qu'on a la sécurité sociale, qu'on a un système de retraite, et ainsi de suite. Tout ce qui a fait, et qui a été, qui a eu son moment de gloire avec le Conseil national de la résistance et le programme des jours heureux, c'est du pur souverainisme social. C'est le peuple décide pour lui-même comment il s'auto-organise et quels sont les droits qu'il s'octroie. Or, en ce moment, depuis 30 ou 40 ans, depuis l'acte unique, depuis Maastricht, nous avons une trahison des élites, pas seulement en France, mais en Europe en particulier, qui, parce que la nature du capitalisme a changé, se détachent de leur peuple et dérégulent par des instances supranationales ou des accords supranationaux, souvent qualifiés d'indépendants, mais ils ne le sont pas du tout, puisqu'ils sont, enfin, ils ne sont surtout pas élus. Et il n'y a aucun moyen de contrôle populaire, il n'y a pas de souveraineté populaire qui s'exprime, dérégulent par l'entremise d'une multitude de règles qui se décident soit à Bruxelles, soit à l'OMC, soit dans différents cénacles détachés du peuple, et dont l'objectif est de déréguler tout ce que le peuple a régulé depuis maintenant quelques 250 ans. Et c'est là, c'est pour ça que nous considérons que c'est important d'être souverain. Car, comme le disait Jacques, un peuple s'exprime dans le cadre d'une nation. Il n'y a pas pour le moment, peut-être ça viendra un jour, pourquoi pas, un peuple européen, au sens un peuple politique européen. Il y a une culture commune, des éléments communs culturels forts, mais il n'y a pas de peuple politique. Le seul espace où le peuple...
Ça a été d'ailleurs acté par l'équivalent du Conseil constitutionnel
allemand. Oui,
d'accord, exactement, les Allemands. Oui.
Alors, mais on a multiplié des références jusqu'ici qui sont souvent associés à l'histoire de la gauche. On a parlé de laïcité, vous avez parlé de la Révolution française. Vous vous définissez comme un souverainiste social. Alors comment vous expliquez que le souverainisme est si mauvaise presse à gauche ?
Mais ça, c'est la petite histoire du Parti socialiste des 30 dernières années et de tous les satellites qui sont autour, en particulier ELV. C'est-à-dire que, pour faire bref, le Parti socialiste... il y a eu un mouvement qui a été impulsé par François Mitterrand, qui était en fait un fédéraliste européen, où ils ont choisi, avec Jacques Delors, de construire une union européenne particulière. Je répète, le problème n'est pas l'Union européenne, c'est la manière dont elle est construite et ce qu'elle promeut. Mm-hmm. C'est-à-dire, elle promeut le marché et pas l'union des peuples. C'est une extension permanente du marché et de la marchandisation de toutes choses. C'est ça qu'est l'Union européenne. Décide de construire cette union européenne-là et d'y sacrifier le socialisme. C'est-à-dire tout ce pourquoi est censé se battre quelqu'un qui se dit de gauche. Pour faire simple, hein, on a tout à gauche. Ça va de Valls et Macron, paraît-il, jusqu'à Besançon. Bon, c'est, évidemment, c'est pas pareil, mais en gros, pour faire simple, tout le monde comprend de manière populaire, disons, que être de gauche, puisque les mots, eh ben, c'est ceux qui vont s'occuper, qu'on vive dignement au travail, qu'on puisse avoir accès à l'école pour ses enfants, même si on n'a pas l'argent pour payer des grandes études, qu'on ait accès aux soins et qu'on améliore les salaires et le bonheur quotidien. En gros, c'est ça être de gauche. Bon. Ils ont trahi ça, puisqu'ils ont construit cette Union européenne-là, pas à pas, souvent en appliquant eux-mêmes, personne ne les a forcés, aucun char n'est arrivé autour de Paris, on n'a pas été attaqué, personne nous a mis un pistolet sous la tempe, ont eux-mêmes mis en place des directives, des consignes européennes, qui maintenant fonctionnent quasiment sous forme de diktat depuis le traité de Lisbonne, mais c'est eux qui l'ont mis en place, et parfois encore plus que la droite. Et c'est un étonnant renversement quand on connaît l'histoire de ce que la nation, comment le concept de nation est né, comment le concept de souveraineté est né. C'est un étonnant retournement que ce soit une figure de la droite, Philippe Séguin, qui ait fait le chant du cygne de la souveraineté à l'Assemblée nationale, et pas un Jaurès ou un Clémenceau moderne.
Alors justement, c'est aussi ce qui semble gêner certaines personnes à gauche, cette transversalité du souverainisme. Je voudrais qu'on écoute un extrait qui illustre ça. C'est François Bégaudeau qui débattait avec Natacha Polony et qui s'exprime au sujet du souverainisme.
Et le souverainisme, autre mot qui me paraît produire des confusions extraordinaires aussi. Hein, parce que alors là, ça crée des transversalités bizarres entre des camps, je crois, n'aident pas à la clarté des choses. Donc je crois qu'il faut toujours rappeler que, bien sûr, que l'idée de souveraineté est une idée intéressante, surtout si on la rapporte à la démocratie. La souveraineté, ce serait la souveraineté du peuple, etc. Bon, très bien. Mais le souverainisme en tant que tel, c'est-à-dire celui qui considère que la mère des batailles serait la bataille pour la souveraineté contre exemplairement l'Union européenne, donc pourquoi pas la sortie de l'euro et autre chose avec lesquelles je serais plutôt favorable par ailleurs. Mais ce qui me différencie des souverainistes, c'est que je ne pense pas que ce soit la mère des batailles. La mère des batailles, c'est la bataille contre le capitalisme.
La bataille contre le capitalisme et non pas pour le souverainisme. En fait, ce qui semble faire débat, ce n'est pas le choix des causes, c'est le choix du clivage principal.
Oui, et là, ça prouve surtout que Bégaudeau ignore l'histoire du XXe siècle, même d'une partie du XIXe. On ne peut pas partir de l'idée, bon, on est contre le capitalisme, d'accord. Moi aussi, bien. Encore qu'il faudrait savoir qu'est-ce qu'on veut mettre à la place, ce qui est un autre problème. Mais surtout, est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir des batailles dans lesquelles on puisse se retrouver avec d'autres personnes qui ne pensent pas comme nous, mais qui, sur ce point, vont penser comme nous? Et ça pose le problème général de ce que l'on appelle les alliances. Alors, je vais prendre un cas qui est absolument emblématique, la Révolution russe. La Révolution russe, on ne peut pas imaginer au départ plus anticapitaliste que cette révolution. Bien. Pourtant, on voit qu'il y a toute une partie des industriels et de la bourgeoisie russe qui, confrontés au choix entre le tsar et les bolcheviks, ont choisi les bolcheviks. Pourquoi ? D'abord parce qu'ils pensaient que les bolcheviks représentaient une forme de modernité face au régime tsariste, ça c'est un premier point, mais surtout parce que à partir du moment où vous avez les interventions étrangères contre la révolution, tous ces gens disent, non attendez, entre une grande Russie, parce qu'on ne parle pas encore d'Union soviétique, hein. L'Union soviétique, ça sera 1922, et il faudra que la paix soit revenue pour qu'on pense à l'Union soviétique. Bon. Entre une Russie bolchevique et une Russie qui serait démembrée par les interventions occidentales, notre choix, c'est la première. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils mettaient, en fait, le cadre de résolution nationale des conflits avant la question de la défense ou du combat contre le capitalisme. Et ça, c'est un point extrêmement important. C'est d'ailleurs quelque chose qui est strictement inaudible, alors non seulement à gauche, mais surtout à l'extrême-gauche. Moi, j'ai passé 20 ans à chercher à démontrer à mes anciens camarades de l'extrême-gauche que la révolution russe n'avait pu réussir que parce que des segments entiers de la bourgeoisie industrielle russe s'étaient ralliés aux bolcheviques, que autrement les bolcheviques n'auraient pas réussi. Bon, et ça, il y a un refus total de l'admettre. Autre exemple archétypal, la Révolution chinoise, 1949.
Et après, on va revenir en France.
Si vous voulez. Mais si vous voulez, mais c'est important de comprendre ça. Et on voit très bien que là, qu'est-ce que fait Mao Tse-tung ? Il fait ce qu'il appelle le bloc des quatre classes. Alors, le bloc de quatre classes, c'est quoi ? C'est, vous savez, dire ça se voit encore sur le drapeau chinois. Vous avez l'étoile, puis vous avez quatre petites étoiles autour qui représentent les fameuses quatre classes. C'est le prolétariat. Le prolétariat chinois, en 49, c'est pas grand-chose. Bon. La paysannerie, oui, bien sûr. La classe des intellectuels, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que Mao Tse-tung, dans une tradition très chinoise, ça c'est pas trop marxiste-léniniste, les intellectuels très chinois, ils considèrent les intellectuels comme une classe. Et puis, la bourgeoisie nationale. Bon, donc...
Donc il fait une alliance entre...
Il fait une alliance. Et on retrouve ça, et on retrouve ça dans toute une série de pays. Donc, ça veut dire que la question de la défense d'un cadre national de régulation ou de règlement, plus exactement, des conflits sociaux apparaît bien, à un moment donné, comme l'essentiel, si on veut, dans la lutte.
Mais ça pour revenir sur oui, Bégodeau, parce que vraiment,
j'arrive, parce que j'introduis, parce que quand même ça nous ramène un peu à votre parcours et à l'histoire de la France insoumise, puisque cette alliance et ce primat du cadre du peuple souverain, ça a été à un moment donné l'échelle de mesure de la France insoumise, notamment
donc,
l'avenir en commun. À l'époque où vous y étiez, à la suite, ça a un peu changé et vous avez quitté la France Insoumise. Mais je vous laisse nous expliquer un peu les raisons de ce départ.
En dehors du programme de la France Insoumise de 2017, la campagne de Jean-Luc Mélenchon avait été de facto lancée le 9 décembre 2015, parce qu'il lance très très tôt cette campagne, sur les questions régaliennes. Défense internationale, je m'étais occupé puisque...
vous étiez son conseiller aux affaires internationales et puis ensuite vous étiez également secrétaire national du mouvement à la défense et à l'international.
Voilà, c'est parce que c'est le parti gauche et FI, bon ça c'était les tambouilles organisationnelles de Jean-Luc, bon ça, c'est encore autre chose. Mais ce qui est intéressant c'est que ce programme avait été présenté avec, en publiant un cahier à la revue Défense Nationale. Revue Défense Nationale qui est... La revue d'élite de l'armée française qui est publiée, éditée à l'école militaire. Et son titre était « Pour un nouvel indépendantisme ». Ça, c'est parce que Jean-Luc voulait pas, Jean-Luc Mélenchon ne voulait pas qu'on écrive un nouveau souverainisme, parce qu'il y a on tombait dessus, parce que le terme est mal connoté. Et ça va nous renvoyer à Bégodeau, j'y arrive. Indépendantisme. Ce qui, en gros, signifie la même chose. C'est la compétence de la compétence. L'État, la France, est en dernier recours celui qui choisit son destin. On ne va pas se faire imposer une réforme des retraites par Bruxelles. On décide de la retraite qu'on veut avoir, parce qu'on est un peuple social. Bon, voilà. Il y avait un dernier article, qui est un long article dans ce cahier, en fait un livre de Jean-Luc Mélenchon, qui donne la ligne sur les questions internationales de défense, et qui était très très gaullien, de facto. Avant, il y avait des articles avec Pascal Boniface, mais avec aussi le général Vincent Desportes, avec l'amiral Dufour, qui ne sont pas spécialement des gens de gauche, avec des analystes de droite, avec des responsables de Thalès. Donc il y avait cette idée dont parlait Jacques, très concrète, d'alliance de gens certains sont de droite catholique, mais n'ont pas envie que EDF disparaisse. Ils sont pour un service public de l'énergie en France. Il y a des gens comme ça qui nous avaient rejoints. Bon. Mais le choix indépendantisme et séparatisme permet de revenir sur l'extrait que vous avez choisi de Bégodeau, qui est très très bien. Vous choisissez d'excellents extraits, ça a été bien travaillé. Qu'est-ce qu'il dit dans cet extrait ? Il dit qu'il est d'accord ?
Oui.
Sauf qu'il a frousse. Le terme fait peur. C'est comme quand, en 2011-2012, à l'époque c'était le Parti de gauche, et Jean-Luc Mélenchon, dans la première campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, on a ressorti les drapeaux bleu-blanc-rouge, on a ressorti la Marseillaise. Ah, mais c'était la panique à bord. Ah là là, tous nos alliés de gauche, mais non, c'est des fascistes qui ont des drapeaux rouges. Incroyable. Non, on a reconquis ce qui était qui vient de la gauche, en fait. Ce concept de nation, la Marseillaise, non, n'est pas un chant fasciste. C'est le chant qui a été chanté à la Commune de Paris, qui a été chanté par les communistes chinois en 1927, qui a été... c'est le ghetto de Varsovie reçoit les SS, enfin une partie des combattants en chantant la Marseillaise. Bref, il y a une portée révolutionnaire dans ce chant. Donc, on a récupéré ça. Donc, ce que dit Bégodeau, c'est qu'il y a un peu la frousse d'utiliser le terme, même s'il est d'accord. Et puis, il y a un autre élément...
D'ailleurs, Arnaud Montebourg également, il se réclame de la souveraineté, mais ne veut pas utiliser le terme souverainiste parce que, voilà, c'est une histoire de connotation, en fait.
Ben, c'est une question de frousse. Encore une fois, à un moment, c'était dans cette campagne étrange de 2022, avec Arnaud Montebourg, faisait des allers-retours. Et parfois, François Ruffin a aussi cette tendance à aller sur ce sujet pour puis revenir en arrière. Mais une fois, je me souviens, il disait « Non, je ne suis pas souverainiste », mais ils avaient mal cadré, il y avait marqué « La remontada de la souveraineté qui partait de son oreille gauche ». Donc, bon, ça, évidemment, les gens normaux ne pouvaient pas comprendre. Mais il y a un élément quand même qui est intéressant chez Bégodeau, qui est une idée dans l'ultra-gauche, qui est « Mais tant mieux qu'il y ait une internationale même ultra-capitaliste ». Parce que c'est une internationale, et dans cette internationale, les prolétaires seront opposés ensemble à l'ennemi commun. Mais ça serait vrai s'il y avait un peuple politique européen ou international. Or, même s'il y a des intérêts objectifs entre l'ouvrier mécanicien mexicain, chinois et français, ils n'ont pas la même culture politique, ils n'ont pas la même vie exactement, et ne sont pas, contrairement à ce que pensent théoriquement certains à l'ultra-gauche, alliés spontanés. Parfois, ils sont même adversaires parce que ben, le libre-échange fait que ça permet de créer une classe ouvrière mieux rémunérée en Chine qu'elle ne l'était il y a 30 ans et qu'elle appauvrit la classe ouvrière qui disparaît en France. Petit exemple parmi beaucoup d'autres. Et donc, c'est là qu'il y a, je pense, le clivage. Mais je ne pense pas sur le fond, puisqu'il dit lui-même sur le fond, il est d'accord.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé enfin,
pourquoi... France Insoumise.
Oui,
bah, mais c'est... Non, mais c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a décidé de changer. Mais ça, c'est un autre sujet. On ne parle plus de souveraineté. Jean-Luc Mélenchon, en avril 2018, pour être très, très précis.
Parce que cette stratégie avait été payante, en fait, aussi, quand même. On parle de souveraineté.
Elle a été payante, je vous fais très, très bref. En avril 2018. Jean-Luc Mélenchon change de stratégie. Entre 2017, l'élection à l'Assemblée des 17 premiers députés FI à l'Assemblée nationale et avril 2018, il se lance dans un vaste mouvement qui lance un mouvement européen qui s'appelle « Et maintenant le peuple » en Europe, qui est « Faisons une FI France insoumise au niveau européen », qui consiste à casser la gauche européenne telle qu'elle existe, qui est dirigée par Syriza, le PCF et Die Linke, pour en faire quelque chose d'autre qui soit plus du populisme de gauche qu'il incarnait à ce moment-là, entre ce « eux » et « nous ». Mais en avril 2018, il change d'avis parce qu'il fait un calcul. Il se dit « la prochaine élection, c'est l'élection européenne ». Les catégories populaires qui votent pour nous à l'élection présidentielle ne vont pas se déplacer. C'est les européistes de gauche et de droite qui vont se déplacer pour aller voter à cette élection. Donc on va se bananer. Et puis après, il y a les municipales, et puis il y a les régionales. Et puis ça a été compliqué en 2017 avec les communistes qui ont donné leurs accords au dernier moment, ce qui fait que ça a bloqué les prêts bancaires. Donc on n'avait pas les 500 élus. Il fait un choix. Il se dit « je fais faire l'hégémonie à gauche ». C'est le terme qu'il utilise, je vais faire l'hégémonie à gauche, et il l'a faite. Regardez la NUPES. Réussite absolue. C'est quelqu'un qui décide un objectif politique. Il l'a atteint 4 ans plus tard. Sauf que pour l'atteindre, il est obligé de sacrifier certaines choses qui ne plaisent pas à une certaine gauche. Je parle
notamment le fameux plan B.
Notamment le fameux plan B, donc, qui n'est pas un Frexit, qui est une réflexion avec les autres peuples européens et leurs représentants de comment construire autre chose et comment on sort de cet enfer que les néolibéral qu'est l'Union européenne pour construire une autre Europe. Et pour cela, il faut mettre de l'eau dans son vin sur les questions d'indépendantisme, de souveraineté, moins parler de défense et être plus en phase sur des questions sociétales qui sont devenus l'alpha et l'oméga de tous ceux qui, justement, on en parlait tout à l'heure, ont trahi les combats qui étaient les premiers de ceux qui défendent l'idéal socialiste pour construire une Union européenne néolibérale. Alors, même que tous ces gens de gauche, en général, ont la main sur le cœur et ils aident leurs prochains, ils ne sont pas néolibéraux dans leur esprit, mais ils ne peuvent pas s'enlever de la... Enfin, ils croient réellement qu'on peut changer l'Union européenne de l'intérieur, celle qui existe aujourd'hui. Et donc, toute atteinte à cette Union européenne, eh bien, c'est une atteinte à l'Union des peuples, même si, encore une fois, elle n'existe pas. Et donc, il a changé de stratégie, espérant que ça payerait. Ça a payé pour faire la NUPES, mais je ne suis pas sûr que ça paye pour prendre le pouvoir, parce que pour prendre le pouvoir, c'est ce que disait Jacques, il faut réussir cette alliance complexe sous le drapeau du souverainisme social.
Alors, on va parler de cette alliance, mais puisqu'on est sur l'Union européenne, parlons-en un petit peu. Puisqu'il en est nécessairement en question quand on parle de souveraineté, on l'a vu, et certains opposants au souverainisme estiment qu'à l'heure de la mondialisation, la France ne peut être souveraine que dans le cadre européen. On écoute quelques-uns de leurs arguments.
Aujourd'hui, l'indépendance n'a pas le même sens qu'à l'époque du général de Gaulle. Être indépendant, c'est partager des souverainetés que nous avons perdues. Qu'on m'explique ce qu'est la souveraineté budgétaire française aujourd'hui à l'heure où nous croulons sous les déficits. Cela n'a aucun sens. Je préfère être un pays équilibré financièrement dans le cadre européen à partir d'une souveraineté partagée avec l'Europe.
Il y a une souveraineté européenne à construire et il y a la nécessité de la construire. Pourquoi ? Parce que ce qui constitue, ce qui forge notre identité profonde, cet équilibre de valeurs, ce rapport à la liberté, aux droits de l'homme, à la justice collective, est inédit sur la planète.
Ce destin de souveraineté nationale que nous propose Mme Le Pen ou M. Salvini, eh bien c'est quoi ? C'est un destin de laquais des empires chinois, de laquais de l'empire russe, de laquais de Donald Trump. La seule manière aujourd'hui, dans ce monde extrêmement dangereux, d'être réellement souverain, c'est-à-dire d'avoir la maîtrise de son destin. C'est l'Europe, c'est l'Union européenne.
On vient d'entendre Dominique de Villepin en 2012, Emmanuel Macron en 2017, puis le député européen Raphaël Glucksmann en 2019. Qu'est-ce que vous répondez, Jacques Sapir, à ceux qui, comme eux, expliquent que la France ne peut pas être souveraine seule face aux grandes puissances ou ne peut être souveraine que dans le cadre européen ?
C'est un mensonge. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut, d'une certaine manière, déconstruire ce mensonge. Alors, c'est un mensonge parce que il y a des petits pays qui ont été des pays parfaitement souverains. Prenez le cas de la Corée du Sud, je pense évidemment, c'est un pays souverain. Bon, donc on n'est pas du
et
tout
et qui rayonne dans le monde.
Et qui rayonne dans le monde, qui a une industrie électronique très forte culturellement. D'ailleurs, ils ont réussi à faire l'alliance entre les deux puisqu'ils ont développé toute cette industrie autour des contenus vidéo. Et aujourd'hui, c'est un des points forts de l'industrie sud-coréenne. Bon, passons. Fondamentalement, premier argument sur la question du budget. Bah, la question du budget, elle se règle en France. Et on peut parfaitement accepter un déficit budgétaire plus ou moins élevé. D'une certaine manière, ce sont des règles qui ont été, des règles institutionnelles, qui ont été posées justement par les européistes, qui nous empêchent de gérer ce déficit budgétaire dans le cadre français. Prenons par exemple la réforme de, enfin, avant de Maastricht, la réforme de la Banque de France. Avant 1973 et surtout avant 1986, parce que c'est pas tout à fait évident autour de la réforme de 1973, la Banque de France était parfaitement capable de financer une partie du déficit du budget. On se l'est interdit. Pourquoi ? Parce qu'on voulait faire l'euro, mais ce n'est pas du tout parce qu'on ne pouvait pas tenir ça dans le cadre français. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur la question des valeurs. Oui, bien sûr, en Europe, je ne dis pas l'Europe, mais en Europe, ce qui est tout à fait différent, on a inventé un certain rapport à la démocratie et à l'individu. Chose dont d'ailleurs Emmanuel Macron ne parle pas. Ce qui caractérise d'une certaine manière ce point de vue qui naît en Europe, c'est une tension entre la collectivité et l'individu. Bien. Aux États-Unis, c'est l'individu et il n'y a pas tellement de collectivité. En Chine et en Russie, c'est la collectivité et il n'y a pas tellement de place pour l'individu. Et nous avons, à travers des drames, à travers d'ailleurs une histoire extrêmement sanglante, il faut le dire, plus ou moins élaborer ça. Mais concrètement, il y a des interprétations nationales qui sont extraordinairement différentes. La Grande-Bretagne n'est pas un pays moins démocratique que ne l'est la France. Je pense d'ailleurs qu'elle l'est même, d'une certaine manière, plus que la France. Et pourtant, c'est une monarchie. Bien.
Oui, mais les fédéralistes vous diraient qu'il faut faire plus d'Europe pour construire ce peuple européen qui nous fait défaut, etc.
Moi, j'inverse la question. Je dis, s'il existait un peuple européen, s'il y avait effectivement une pensée commune. Oui. À ce moment-là, se poserait la question de la construction d'institutions communes. Mais on voit bien que sur toute une série de ces points, il y a dans l'interprétation, dans l'usage qui est fait de certaines de ces valeurs, d'énormes différences et qui sont à chaque fois des différences nationales. Donc ça, c'est pour répondre à cette histoire. On va fonder l'Europe sur une communauté de valeurs. Cette communauté de valeurs n'existe pas. Ou plus précisément, la seule communauté qui pourrait exister un jour, c'est une communauté d'usage. Tant qu'on n'a pas réalisé cette communauté d'usage, parler de communauté de valeurs est absolument, je dirais, inopérant. Bon. Troisième point, sur le rapport aux grands empires. Mais, très concrètement, des pays souverains peuvent passer des alliances. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale ? La France libre, elle a fait alliance avec la Grande-Bretagne, avec les États-Unis, avec l'Union soviétique à partir de fin juin 1941. Donc, on peut tout à fait avoir des alliances qui permettent de résister à un moment donné à un pays, un empire, une puissance qui pose un problème réel à la fois du point de vue des valeurs démocratiques, mais surtout, je dirais, des valeurs humaines, et c'était le cas avec le nazisme. Bon, et ça n'empêche pas que ces pays ont conservé leur indépendance. Donc, si vous voulez, les trois arguments, l'argument de Villepin, l'argument de Macron et l'argument de Raphaël Glucksmann, me semblent des arguments controuvés, fondés sur des faussetés historiques et démontrant à quel point ces gens sont capables de manipuler l'histoire pour faire avancer un narratif, je dirais, en contradiction complète avec ce qu'est l'histoire réelle.
Georges Kusmanovic.
La citation de Glucksmann date de quand ?
De 2019, c'était 2019. Pendant la, non, à l'aube de la campagne aux européennes.
Raphaël Glucksmann, dans l'Obs d'avril 2020.
Oui, il est un peu plus souverainiste.
Non, il dit ce qui doit primer, ce n'est pas l'idéal européen, c'est la nécessité d'être souverain.
Oui, voilà.
Bon, la raison pour laquelle il a changé d'avis, peut-être qu'il est un peu comme une girouette, c'est que le vent soufflait tout à coup dans une direction particulière, impulsée par la Covid. Et les peuples, en tout cas les Français, beaucoup de Français, y compris des gens très libéraux économiquement, se sont rendus compte qu'en fait, ils ne produisaient pas de trucs dans leur pays, mais des trucs de base. Et que, à la foire d'empoigne sur les tarmacs de Chine, se négocier ou pas si on allait avoir des masques. Ils ont dit que tout à coup, c'était embêtant de ne pas avoir, être en capacité. Et ils l'ont découvert de plus en plus au fil des années qui ont suivi depuis 2019, justement, avec, entre autres, la guerre en Ukraine, le fait qu'on n'a pas vraiment de munitions. Toute une série de choses sont produites, que ce soit des ressources premières ou... Enfin non, c'est 75% des matières premières et des produits manufacturés sont produits dans ce qu'on appelle les pays BRICS. Par rapport aux trois citations, elles sont intéressantes. Celle de Dominique de Villepin. On voit avec l'Union européenne combien les déficits budgétaires sont extrêmement bien contrôlés. C'est vraiment magnifique. Je crois qu'on est à 3 000. On a pulvérisé les 3 000 milliards pour la France. Ça, c'est pour la dette souveraine, publique. Hein. On a la dette des entreprises et des ménages qui est absolument catastrophique. L'Union européenne, avec la Banque centrale, le FMI, ont déclaré une guerre totale au peuple grec, soi-disant renflouer la dette grecque. On en est où ? Nulle part, évidemment. Et en fait, contrairement à ce que dit Dominique de Villepin, et je pense que là, il fait acte de propagande quand il fait cette citation. Je pense qu'il ne la ferait pas aujourd'hui parce que ça sera assez ridicule vu les déficits dans le cadre européen. C'est qu'il oublie l'histoire de France. Enfin, il fait semblant d'oublier, parce qu'il la connaît très très bien. Justement, je vais faire simple, hein, Jacques. Le défaut sur toute partie de la dette est caractéristique d'une décision de nos dirigeants parmi les plus importants dans notre histoire. Philippe le Bel avec les Templiers, Sully et Henri IV avec qui décident de payer, ils font un audit de la dette, c'est ce qu'on propose. On propose de faire exactement la même chose que Sully, de faire un audit de la dette, puis ils ont payé 10 ou 12%, je ne sais plus. Ils ont dit, bah, écoutez messieurs, combien avez-vous de compagnies de mousquetaires ? Bon, au diable, ils ont fait défaut, c'est-à-dire ils ont décidé de ne pas payer une partie de la dette.
Ah oui, le fait de ne pas payer la dette est un acte souverain, très bien.
Voilà, le roi décide, je ne paierai pas. Alors certains le font poliment en faisant un audit de la dette en disant « on ne vous paiera pas ». D'autres, comme Philippe le Bel, internent tous les Templiers, en brûlent quelques-uns là, à côté de l'actuel Pont-Neuf. Bon. Mais ça va être aussi Richelieu, ça va être Mazarin, ça va être le comité de salut public, ça va être De Gaulle. De Gaulle, ça va être avec l'inflation. C'est comment...
Et Jean-Luc Mélenchon évoquait cette éventualité à un moment donné.
Bien évidemment. Mais toute personne censée, à un moment, doit réfléchir comment, par que ce soit l'audit, l'inflation, enfin, différents mécanismes que Jacques connaît bien, infiniment mieux, se débarrasser de la dette. Donc, bon, on peut le faire tout à fait de manière autonome, on n'a pas besoin de quelque chose d'extérieur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je serais bien en peine, moi, je ne sais pas, encore une fois, c'est une question qui serait intéressante à poser à Jacques, comment est-ce qu'on lutte contre l'inflation quand l'inflation est différentielle dans les pays baltes où elle a dépassé 20% et à 6-7 en France pour le moment avec un même mécanisme monétaire. A priori, je pense que ça ne marche pas dans des pays très différents.
Vaste question de
non, mais c'est, enfin, ouais. Justement, la souveraineté, le manque de souveraineté va faire que ça va être très compliqué de lutter contre ce problème-là. Et puis... Macron sur la question des valeurs, mais il y a une valeur quand même qui est importante, je pense, en Europe, surtout avec l'héritage gréco-romain, c'est ce dont parlait Jacques, c'est la démocratie.
Et vous dites bien, pareil, la liberté, la souveraineté touche à quelque chose d'essentiel, dites-vous Jacques Sapir, la liberté.
Oui, mais la démocratie, c'est si c'est pas ça la valeur européenne, je vois pas ce que c'est réellement. Or, je rappelle que le précédent président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, disait tout à fait, de manière tout à fait franche, il ne peut pas y avoir de démocratie contre le traité européen. À chaque fois qu'un peuple européen a été interrogé, à chaque fois qu'un peuple européen a été interrogé par voie référendaire, je vous rappelle l'article 3 de notre Constitution, dans le titre premier de la souveraineté, eh bien, la Commission européenne ou les partis politiques dans les pays concernés, sauf la Grande-Bretagne, qui donc, peut-être qu'ils ont tort, mais en tout cas au moins ils sont démocratiques, se sont assis sur le vote populaire. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y a un déficit de l'engagement des citoyens en politique, ou que les Gilets jaunes, après moult revendications, aient trouvé cette idée du RIC, qui en fait est tout simplement un appel à un retour de ce dont on parlait au début, de la souveraineté populaire. Et pour la remarque que vous faisiez tout à l'heure à Jacques, et je suis entièrement d'accord avec le terme qu'il utilise, c'est un mensonge. On aurait pu construire, on peut toujours construire un peuple européen, mais il faut s'en donner les moyens. Prenons le ferroviaire. Ce que fait l'Union européenne, c'est privatiser, détruire les systèmes publics ferroviaires de tous les pays européens, comme les Anglais l'ont fait tout seul à partir de 1993. Résultat, vous créez de la haine parce que vous cassez la SNCF, vous cassez la Deutsche Bahn, les gens sont licenciés, ils n'ont plus les acquis, on se retrouve dans la rue parce qu'il y en a qui ont des droits qui datent d'il y a 40 ans, puis les jeunes qui sont recrutés n'ont pas les mêmes droits, puis les salaires sont mauvais, puis on réduit les moyens, la maintenance, tout est à vouloir, les accidents augmentent, l'accident en Grèce là, il y a d'une semaine est strictement lié aux politiques d'austérité imposées par l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire à la place? On aurait pu dire, bah non, on fait un Euro-Rail. Prenons les Français et les Allemands, et on fait un truc public européen, public, une notion d'intérêt public européen, qui permettrait à chacun, si un jour, je ne sais pas pourquoi, il aurait eu marre de cette Union européenne fondée non pas sur l'intérêt des banques et des systèmes financiers, mais sur les intérêts des peuples, de partir, il aurait toujours en propre son système ferroviaire. Juste, il aurait été mis en commun, on aurait fait des systèmes de voies.
Ça existe,
mais ce qu'ils font, c'est, par exemple, la Poste. Oui. La Poste, on aurait pu avoir une Poste européenne avec des postiers en bleu, avec un beau drapeau ici sur l'épaule, et puis donne comme le faisait. La Poste, c'est parce que la souveraineté se construit sur l'armée,
les impôts,
battre monnaie et les postes. Ben, ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi de tout s'aborder pour créer un champion européen DHL qui, soi-disant, est censé concurrencer FedEx et s'aborder toutes les postes européennes. Voilà, donc non.
Donc il faut prendre acte de cet échec européen, et revenir à l'échelon national, selon vous?
Non, mais
Raphaël Glucksmann dirait oui, très bien, faisons-le et
oui,
toujours plus d'Europe.
On doit faire, selon moi, je pense que je suis beaucoup plus européen que Glucksmann, je pense que nous sommes beaucoup plus européens, parce que ce qui nous intéresse d'abord, c'est la souveraineté populaire, donc la démocratie, et que notre idée a déjà été, ce que nous proposons, nous reprenons ce qu'a proposé le général de Gaulle avec le plan Fouché, qui après a été ce traité de l'Elysée, c'est une Union européenne qui ne dépend pas de puissances étrangères, en particulier les États-Unis, donc dans le traité de l'Elysée. qui est mort-né. Hein. Ils ont fêté quelque chose qui est un... Ils ont fêté là, les 60 ans d'un truc qui est mort 2 mois après.
Oui, parce qu'il n'a pas été
non, parce
ratifié
que... ensuite. Non, mais c'est intéressant. Général de Gaulle...
Il a été ratifié, mais avec un préambule qui a changé complètement.
Voilà. Et le général de Gaulle exigeait qu'il n'y ait. Bah, que ce soit une Europe des États-nations, c'est ça qui est intéressant, justement, États-nations, d'États souverains, mais qui se mettent ensemble, comme disait Jacques, parce qu'ils trouvent que sur certains sujets, je vois, l'Eurorail, l'Europost, on peut se mettre ensemble, ça serait beaucoup plus efficace, pourquoi pas. Mais il disait, il ne faut pas qu'il y ait les États-Unis dans ce traité, il ne faut pas qu'il y ait l'OTAN, il ne faut pas qu'il y ait le GATT.
Le GATT, c'était le préambule.
Le GATT, c'était l'OMC. Ah, c'est les Allemands qui ont eu une peur panique, il est sûrement les Américains ont fait un peu pression, le Bundestag, qui vote un préambule où il y a les États-Unis, l'OTAN et le GATT, c'est-à-dire le futur OMC. C'est-à-dire tout ce qui va faire que non seulement nous perdons notre souveraineté, mais que la souveraineté européenne que prône Emmanuel Macron est un pur délire intellectuel, un fantasme. Ça n'a aucun sens. Cette Europe-là est totalement inféodée. Au marché, d'abord. Et ensuite aux États-Unis.
Alors justement, on parlait des années 60, revenons à aujourd'hui. À la lumière de tout ce que vous venez de dire, Jacques Sapir, vous citez dans un de vos livres le discours de Henri IV devant le Parlement de Rouen en 1597. « Il n'y a d'irrémédiable que la perte de l'État ». Et dans son discours devant l'Assemblée nationale, le 5 mai 92, Philippe Séguin alertait lui aussi les parlementaires sur l'irréversibilité du processus dans lequel le traité de Maastricht engagerait la France. Alors, plus de 30 ans après ce discours, n'est-il tout simplement pas trop tard? Est-ce qu'on n'a pas franchi le seuil de l'irréversible?
Il n'y a pas de chose qui soit en politique irréversible dans le long terme. Il peut y avoir effectivement des irréversibilités sur 5 ans, 10 ans. C'est, autrement dit, on s'engage dans une voie et cette voie va vous contraindre pendant un certain temps. Mais il arrive toujours à un moment donné où les contradictions qui sont présentes font éclater cette voie et vous redonne le choix de choisir des voies différentes. Alors, là-dessus, si vous voulez, quand Henri IV fait ce fameux discours, c'est... Alors, c'est une chose intéressante. Les parlementaires de Rouen, de la ville de Rouen, les parlementaires, alors il faut dire, c'est des juges, hein, c'est pas des gens élus. Hein, ils viennent de refuser d'enregistrer un édit qui permet au roi de lever de nouveaux impôts. La situation est grave. L'armée espagnole est devant Arras, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Henri IV fait son discours, il ferait, enfin, il n'est d'irrémédiable que la perte de l'État, mais la suite est encore plus intéressante. Il ferait beau voir que vous me refusiez l'argent, je vous enverrai avec vos robes combattre au devant de mes troupes. Autrement dit, il dit au juge, écoutez, il ne faut pas charrier, c'est pas vous qui allez vous battre contre les Espagnols. Donc il faut bien payer, il faut bien fournir des équipements à l'armée, et donc vous allez m'enregistrer ça. Bien. En réalité, on voit qu'il y a plusieurs périodes historiques où la souveraineté de la France est, en apparence, tombée en miettes. Nous avons, le premier comme, c'est sous Jeanne d'Arc.
On va prendre un seul exemple, s'il vous plaît.
Jeanne d'Arc, bon, mais il y en a d'autres. Il y a cet exemple-là, et il y a l'exemple de 40. Donc, oui, on peut toujours, si on veut, reprendre le contrôle, mais à chaque fois, ça implique un niveau d'affrontement avec les adversaires de la souveraineté qui est d'autant plus important qu'ils seront allés d'autant plus loin dans la négation de la souveraineté.
Alors, très bien, il n'y a rien d'irrémédiable, en tout cas à long terme. Et donc parlons du proche avenir. Il va y avoir les élections européennes l'année prochaine, en 2024. Et la revue Front Populaire, dont vous êtes de proches collaborateurs, enfin, vous me apporterez les nuances que vous voudrez à cette précision, va présenter une liste aux élections européennes de 2024. Est-ce que vous serez de cette aventure électorale? C'est ma première question. Et puis, est-ce qu'il y a des alliances précisément prévues entre les souverainistes de gauche, de droite, d'ailleurs et surtout de nulle part, pour paraphraser Michel Onfray, Georges Kosmanovic?
Alors non, il y avait une proposition qui a été faite à USES en septembre dernier. Il n'y aura pas de liste aux européennes de la revue Front Populaire. Et de toute façon... Michel Onfray, quelqu'un qui bon, c'est un philosophe, c'est pas un politique, il le reconnaît lui-même, il n'aime pas
l'exercice,
la fausseté qu'il considère nécessaire à l'exercice de cette tâche, et ne souhaite pas lui-même être candidat. Donc,
lui, il n'en a jamais été question, bien sûr.
Oui, mais Jess, il en avait parlé. Enfin bon, peu importe, il n'y aura pas. Par contre, oui, nous allons aller aux européennes et nous allons proposer l'alliance la plus large possible. Alors, pour que chacun sache de quoi on parle, on la fera sur la charte que nous proposons à République Souveraine. Ceux qui nous écoutent peuvent aller voir sur notre site, République Souveraine, une charte en 20 points qui donne le cadre dans lequel on va et qui est bien souverainiste social. Et dans ce cadre-là, qui nous permet de nous éviter tous ceux qui détestent la France, comme tous ceux qui sont les ayatollahs de l'identitarisme français, ethnique, ça nous permet de nous en prémunir et que les gens viennent de droite, qu'ils soient gaullistes sociaux, les seguénistes, qu'ils viennent de gauche, qu'ils soient de l'AFI ou des ex-chevènementistes, ou des gens, il y a des gens PS formidables, qu'ils soient de nulle part, parce qu'ils étaient nulle part. Oui, nous pensons que c'est dans ces moments-là, on est dans un moment de crise. On est dans un moment de tournant, de bifurcation historique massive. La guerre en Ukraine n'en est qu'un élément. Il y a une crise économique qui date de 2008, qui n'a jamais été résorbée, 2007-2008, qui n'a jamais été réellement résorbée. Les traders parlent de « everything bubble ». On a un risque financier, une épée de Damoclès de crise financière en permanence au-dessus de la tête. Les réalités sur... les répartitions, la guerre pour les ressources font que voilà, on va avoir besoin de plus de souveraineté et l'élection européenne, parce que c'est une élection à un tour, proportionnelle intégrale, nous permet de nous exprimer. Une dernière chose que je voudrais rajouter, parce que
oui, ce sera le mot de la fin.
Le mot de la fin. Je voudrais, pour ceux qui nous écoutent, s'ils s'intéressent aux questions de souveraineté, ils peuvent acheter un petit livre de Coralie Delhomme.
On mettra les références sur le site Coralie Delhomme.
Nécessaire souveraineté, oui. Avec une petite préface de Natacha Polony dont on a parlé tout à l'heure. Coralie Delhomme était une jeune femme, enfin une femme formidable, qui a été commandante dans l'armée française parce qu'elle avait décidé de servir son pays. Et puis elle a arrêté sa carrière militaire pour, en se rendant compte par ses lectures, qu'il y avait un problème de perte de souveraineté, donc d'action en particulier sociale. Avec l'Union européenne, et petit à petit, elle est devenue l'intellectuelle, la femme intellectuelle de ce souverainisme social. Elle nous a malheureusement quittés il y a 2 ans, et dans un dernier effort de combat, elle a écrit « Nécessaire souveraineté », où c'est de, vous voyez, c'est pas un gros livre, hein, il y a quoi, il y a même pas 100 pages, 82 pages, où c'est vraiment synthétisé cette idée de souveraineté et de souverainisme social. Donc elle nous a quittés en finalisant ce livre, malheureusement d'un cancer. Voilà, donc j'incite tous ceux que cette question intéresse de se tourner vers ces livres de Coralie Delhomme, qui nous manquent beaucoup.
Et pourront trouver les références sur la page de l'émission. Nous arrivons donc au terme de cet échange. Merci à tous les deux. Merci également à Elodie qui était à la réalisation aujourd'hui. En plus du livre de Coralie Delhomme, je rappelle, Jacques Sapir, le titre de vos 2 derniers livres publiés en 2022, Le protectionnisme dans la collection Que sais-je, donc au PUF, et Le grand retour de la planification aux éditions Godefroy.
Qui est très très bien. Lisez-le aussi.
Merci à tous les deux.
Merci.